Vous écoutez
RMC.
Dembélé qui va la récupérer. Allez, le voilà. Enfin,
tout arrive.
Décisif. Dembélé.
Moi, je trouve le PSG bien meilleur et en progression. Ça, c'est vrai. Ouais. Et ils m'ont agréablement surpris sur les dernières prestations.
Luis, l'appel, l'accélération. Quel but de Vitinha.
L'avantage du Paris Saint-Germain, c'est que t'as Kylian Mbappé, peut-être le meilleur attaquant au monde. D'accord, oui, t'as un grand gardien dans les buts. T'as l'avantage d'avoir ces deux postes essentiels, deux repères pour le PSG.
Le but,
ça change bien les choses. Hein.
Oh là. L'égalisation pour Barcelone et le doublé pour Rafinha. Christensen de la tête qui bat tout le monde, qui saute plus haut que tout le monde, renversant le Paris Saint-Germain. C'est confirmé. Défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, 3 buts à 2.
Viser la lune, ça me fait peur. J'y crois encore.
Ah, tu l'adores, Amel Bent.
Ah, bah oui. On l'embrasse, elle nous écoute tous les jours.
C'est vrai.
Avec son mari.
Systématiquement.
Non, mais c'est vrai qu'elle nous écoute beaucoup.
Une auditrice fidèle.
Eh ouais, on l'embrasse.
Dugas, Éric Jérôme, c'était le rendez-vous de l'année. Il ne s'est pas bien passé. Le PSG s'est incliné 3-2, donc au Parc des Princes face au Barça, quart de finale de la Ligue des Champions. Un scénario à rebondissement, des choix surprenants de Luis Enrique, Marquinhos arrière droit, Asensio est titulaire, 6 gauchers titularisés dans le 11 avec les 10 joueurs de champ. Autre élément important, la faillite des cadres, Donnarumma et Kylian Mbappé, dont on parlera à 18h30. Paris va désormais devoir réaliser un exploit inédit s'il veut atteindre les demi-finales. Aucun club français ne s'est qualifié en C1 après avoir perdu le match aller à domicile. Le PSG a-t-il touché ses limites hier soir 32-16 pour participer au débat avec nous? Est-ce que ça y est, on a trouvé les limites de ce PSG, Jérôme Bretagne?
Les limites, je sais pas. Non, j'irai pas jusqu'aux limites. Par contre, moi, je vais axer sur la déception. Vous m'avez entendu avant le match hier. J'étais très positif, à juste titre, par rapport à ce que je voyais. Je suis comme quoi, je suis pas visionnaire parce que j'ai été trahi par des amis. En fait, j'ai été trahi par le gardien et par le meilleur joueur de l'équipe, Kylian Mbappé. Mais si on dit ça, la trahison vient plus du style du Paris Saint-Germain. Comment tu appréhendes ces grands rendez-vous? C'est des matchs incroyables à vivre. L'avantage, c'est que...
Surtout que tu nous avais dit, Jérôme, que la mentalité avait changé.
Oui, c'est vrai.
Tu avais insisté, là, depuis des mois, tu insistes sur le fait que la mentalité, l'ambiance, l'atmosphère, l'envie des joueurs a changé.
C'est vrai, du gars.
Malheureusement, non. Ça s'est pas vu.
Mais oui, mais c'est là-dessus que je sens la trahison. Alors, la trahison est un grand mot, mais...
Je crois pas.
Mais franchement, je ne comprends pas. Tout le monde est unanime pour dire que au sein du club, il y a de la sérénité, il y a de l'affection entre eux, beaucoup plus qu'il y avait. Il y a un entraîneur qui est où tous les joueurs, et là je me suis pris la tête hier avec Daniel Riolo, tous les joueurs, quasiment tous les joueurs adhèrent à son projet et à ce projet-là qui est ambitieux et qui est parfois même compliqué à comprendre, et on l'a vu encore hier avec l'équipe qui met en place. Mais une fois que tu as dit ça, moi je reste persuadé que ces matchs-là se jouent aussi d'un point de vue mental. Et mentalement, je suis désolé, quand tu joues un match à domicile dans un stade et du gars Eric, vous y étiez pas, nous on y était. Je peux te dire que c'est la meilleure ambiance des quatre quarts de finalistes, quarts de finale qu'il y a eu.
Le public a été au
rendez-vous. Il y avait une ambiance de malade. Les gens, ils attendaient que ça, de suivre leur équipe, de les pousser. Mais quant à cette ambiance-là.
Le problème, c'est qu'il n'y avait que le public.
Oui, mais ouais. Dugas, moi, il y a quelque chose, et c'est pour ça que je te parle de trahison. C'est que, encore une fois, et ça se répète à Paris, et c'est là que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le supplément d'âme. Pourquoi il n'y a pas l'envie de se transcender. Beaucoup plus individuellement, je parle même pas du collectif, je parle individuellement. Pourquoi tu fais pas plus d'efforts qu'à l'accoutumée? Pourquoi au premier coup dur ou à la première fatigue, les mecs ils se regardent un peu, ils regardent leur pompe la plupart, et puis ils se disent.
T'as vu ça toi hier soir?
Ouais, j'ai vu ça de la part des attaquants, et on parlera du Kylian Mbappé entre autres, mais je suis désolé, mais il y a des attitudes sur ces matchs-là. Tu dois te servir du public pour les emmener avec toi et qu'ils restent et que ça soit dur. Parce qu'en face, il y avait des gamins aussi. Il y a des gamins et les gamins, on est passé par là. Quand t'as un peu moins d'expérience dans un climat hostile qui est difficile avec un adversaire qui a envie de te monter dessus, c'est difficile de jouer au football. C'est la réalité pour tous les grands joueurs et tous les jeunes joueurs. Le problème, c'est qu'à Paris, au bout d'un quart d'heure, parce que le PSG avait bien démarré son match, ça a duré 10 minutes seulement. Et il y en a qu'un qui a montré l'exemple, c'est Nuno Mendes. C'est trop peu. on parlait des cadres, eux ils doivent faire les efforts pour emmener les gens, pour avoir envie de les supporter. Et au bout de 10 minutes, t'as pu gagner un duel. Ça, c'est pas possible dans le football. Que tu sois un joueur technique, et je me suis pris la tête hier dans l'after avec Daniel Riolo là-dessus, dire il peut me raconter ce qu'il veut, oui il met des guerriers et tout ça, mais si c'était la solution de mettre que des guerriers, ça serait. Non, il faut des bons joueurs de football. Mais le bon joueur de football, comment il s'éclate? C'est en gagnant déjà les deuxièmes ballons, en gagnant les duels. Le problème, c'est qu'à Paris, au bout de 10 minutes, un quart d'heure hier, t'as senti que l'adversaire, il prenait le dessus, que Lewandowski, il a joué dans son salon, tranquille, et je dévide la tête, et je garde le ballon dos au but, et que du Gundogan, pareil, De Jong, qu'il a fait un match, alors qu'il revient de blessure, jamais tu lui as mis une pression, il a gagné 3 duels sur 4, De Jong. Quand toi, à contrario, tes milieux de terrain, Lee, Asensio, Vitinha en première mi-temps, parce que autant la deuxième, il a été bien meilleur, mais la première mi-temps, Ruiz, ont gagné un duel sur 5, mais c'est pas possible. Tu peux pas gagner un match de football comme ça, et après tu peux me parler de toutes les dispositions tactiques que tu veux au monde. Si psychologiquement t'es pas prêt à faire beaucoup plus d'efforts au Parc des Princes pour emmener les 50 000 personnes qui étaient là et qui avaient envie de vibrer tout au long du match pour renverser Barcelone, tu n'y arriveras pas.
Voilà. Duga, est-ce que le PSG a touché ses limites hier?
Oui, oui, ses limites, oui, oui, forcément. Hier, ça a été à mon avis le cas. Les limites de l'organisation de son entraîneur, la limite des dingueries de son entraîneur, encore qui nous a préparé un truc en avant-match, voilà, qui a absolument servi à rien à son équipe. Alors après, j'entends ce que dit Jérôme et je partage son avis, bien sûr, mais on peut pas parler non plus que d'envie. Il y a aussi des gens qui ont des responsabilités, les joueurs, mais aussi un entraîneur qui est là pour faire une composition d'équipe, qui doit permettre à son équipe d'être meilleure. Il doit annoncer à son équipe des intentions de jeu qui doivent permettre à son équipe d'être meilleure, d'être conquérante, d'avoir cette possession. Et ça, malheureusement, je n'ai toujours pas compris à quoi a servi la tutélarisation de Asensio. Pourquoi il a été mis là? Je comprends pas.
À rien, parce qu'il est sorti à la mi-temps.
Qu'est-ce qu'il a voulu faire de ce joueur en le mettant dans cette position et en le titularisant? Je sais pas. La même chose pour Kang In-Lee. Alors l'avantage avec Kang In-Lee, c'est que t'es jamais surpris de ce garçon. Ouais. C'est-à-dire qu'il joue toujours de la même manière. C'est-à-dire tricoter sur son pied gauche et mettre des espèces de ballons devant ou
voilà. Je sais pas
à quoi ce garçon sert. Il a certainement des qualités, il a certainement du talent, mais c'est une énigme absolue. T'es jamais déçu, hein. T'es jamais déçu parce que
il te propose jamais rien. T'attends rien.
Voilà, il te propose jamais.
Donc ça va, c'est une passe à un mètre voilà. Systématiquement.
Donc forcément, je comprends pas ce que Luis Enrique, qui a l'ADN du Barça plus que n'importe qui d'autre, a voulu mettre en place. Moi, j'avais identifié avant le match, parce que je m'amuse toujours un petit peu à le faire. Je me suis dit quel est le point faible de cette équipe du Barça. Où va souffrir le Barça? Où va souffrir le Paris Saint-Germain? Pour moi, le point faible, il était criant hier. C'était le côté droit et le poste d'arrière droit de Koundé. Voilà, pour moi Koundé c'est pas son poste, ça ne le sera jamais. Je le trouve en énorme difficulté quand il a le ballon et quand il ne l'a pas. Pour moi la difficulté et le point qu'il fallait cibler du côté du Barça, c'était ce côté droit,
PSG,
ce côté gauche.
Ouais.
Voilà, du Paris Saint-Germain. Je m'attendais à avoir un pressing, c'est-à-dire laisser Koundé tout seul par exemple, et au moment où il recevait le ballon, tu déclenches un pressing fort, tu le montes fort un peu sur lui, ouais. Et les ballons t'allais tous les récupérer les uns après les autres et puis tu le mettais Kylian Mbappé de manière systématique, t'insistais sur Kylian Mbappé pour qu'il aille le percuter, avec Mendes qui dédoublait dans son dos. Je trouvais que là, ça pouvait apporter quelque chose d'intéressant.
Ouais, mais pour faire ça, il faut récupérer les ballons.
Je n'ai pas compris comment le Paris Saint-Germain a voulu jouer une nouvelle fois. Alors ça c'est arrivé des dizaines de fois depuis que Luis Enrique est l'entraîneur. C'est pas une surprise. Je suis pas entraîneur. Lui, comme il nous a expliqué, il voit ce qui se passe à l'entraînement. Il connaît ses joueurs. Il le voit mieux que quiconque. Et il a mis l'équipe qui pensait être la meilleure pour contrer ce Barça-là. Eh ben écoute, je pense que les joueurs ont une énorme responsabilité. Mais une nouvelle fois, Luis Enrique nous a enfumé. Il a un boulard démesuré. Une nouvelle fois avant le match, il nous expliquait que le Barça, c'était lui. Voilà, l'ADN du Barça, c'est lui.
Ouais, ce qui est bien.
Mais retourne-y. Retourne-y aussi. Il n'y a pas de problème.
Et du gars, ce qui est certainement une erreur de com aussi, parce que.
Non, mais il s'en fiche, il a un boulard.
Non, mais oui, il n'y a rien de tel pour exciter aussi l'adversaire, pour exciter l'entraîneur d'en face. Quand tu prends une réflexion comme ça, c'est pas très malin de sa part.
Je vais te dire, il est content du résultat d'hier parce qu'il va pouvoir préparer, concocter quelque chose qui va faire que là, on va dire, est-ce que c'est la victoire si se qualifient, parce que je crois encore qu'ils peuvent se qualifier au prochain match.
Oui, parce qu'il n'y a qu'un but
au match retour. Voilà, c'est Luis. Qu'est-ce que va nous préparer Luis Enrique? Ça va être lui qui va réussir à sortir le coup du siècle, qui va inventer quelque chose, qui va faire que si ça fonctionne, eh bien, ce sera un génie. Bon, ben, très bien. Eh bien, écoute, bravo, monsieur Enrique. J'ai hâte de vous voir au match retour.
Bon, en tout cas, la première manche, Eric, elle est ratée, hein, du Paris Saint-Germain.
Ouais. Alors, écoute, tout ce qu'on dit là ce soir sera peut-être contredit la semaine prochaine, parce que quand
tu as
des
Dembélé,
non, mais je sais bien, mais quand on a des Dembélé ou des Mbappé dans un match, c'est vrai que ça peut faire la différence. Sauf que moi. Et d'ailleurs, je vais vous poser des questions, puisque des fois, moi, je perds la mémoire. Jérôme, toi, quand vous faites la finale de la Ligue des Champions, on est d'accord, si je me souviens bien, parce que j'avais suivi cette campagne-là attentivement, il y avait pratiquement toujours la même équipe, si je me souviens bien, sur la campagne et les gros matchs.
Non, mais c'est vrai, t'as raison.
Et du gars, on est d'accord. Et même en championnat, je pense que, en plus, vous étiez en lutte pour le titre cette année-là.
Ouais,
donc, c'était toujours la même équipe, on est d'accord. Vous jouiez tous les. Ouais, quand je dis la même équipe, c'est à un ou deux près. Hein.
Oui.
Et un ou deux près, c'est du poste pour poste, avec des mecs qui, toute l'année, bossent avec tout le monde.
Du gars,
je présume que quand vous faites la finale, vous aussi, c'est la finale ou non? Le Milan là, par exemple,
ouais, c'est la finale. De...
C'est la finale. Pareil, il me semble que vous aviez. Un joueur de ce genre, il y avait 8-9 mecs, c'est toujours les mêmes. On est d'accord.
Ouais.
Voilà. Et donc, moi, pour répondre à la question du jour, mais moi sur ce que je vois ces dernières semaines au PSG. Et ce qu'on a vu pendant la phase de poule, voire même pendant toute la campagne européenne, on n'est pas étonné finalement. Enfin, moi, je suis pas étonné de ce que j'ai vu hier soir. Je m'explique. On attendait que le PSG monte son niveau à ce moment-là de l'année, et c'est possible qu'une équipe qui est reconstituée à 50% mette 3 mois de plus pour atteindre le haut niveau. Sauf que. Et donc je vous confirme que moi aussi, chaque fois qu'on a fait des campagnes où on est allé loin, il y avait une ossature forte avec un système de jeu et avec des idées de jeu qu'on avait travaillé tout au long de l'année et qui souvent étaient difficiles à inculquer. Et donc et c'est pour ça que c'est là où je vais en venir. J'en ai déjà parlé tout à l'heure et j'en ai même parlé pendant le mois qui vient de passer. Là, on radote tout le temps dans cette émission. Mais hier soir, on est d'accord. Hier soir, Edugal l'a dit à Asensio pour déclencher le pressing. On attendait qu'il déclenche un pressing pour mettre un peu de la folie dans ce match. On est d'accord.
Ouais.
Et donc, vous pensez pas, mais il y a des gens, mais même au sein de cette radio, qui pensaient que en faisant jamais la même équipe, jamais le même système, des mecs qui un coup sont à droite, un coup sont à gauche, un coup sont au milieu, un coup sont devant, un coup sont défenseur central, un coup sont à l'arrière. Ils pensaient qu'hier soir, il y aurait un pressing cohérent. Mais vous savez, le pressing, ce que c'est, je le disais tout à l'heure dans le Moscato Show, c'est de l'horlogerie. C'est-à-dire que, et en plus souvent, celui qui provoque le pressing, c'est l'avançable. Parce que c'est lui qui fait partir le ballon du côté où il veut. C'est-à-dire que, comme le disait Dugas, tu peux quand t'es avançable, parce que Ter Stegen, il avait le ballon dans les pieds et il relance dans les pieds, qu'est-ce que tu fais? Tu vas un peu à droite pour qu'il relance sur Koundé. C'est toi qui déclenches le pressing. Et là, derrière, toutes les courses, toutes les couvertures, toutes les courses, c'est un travail d'orfèvrerie que tu mets souvent 6 mois à acquérir quand déjà tu as un entraîneur qui te fait travailler ça. À l'entraînement, contre les bidons, et après en opposition, et en marche, en match. Et oui, c'est ça.
Je te crois,
tu le travailles tout seul dans un premier temps, où il met le ballon à droite, tout le monde se déplace, il met le ballon à gauche, tout le monde. Après, tu mets contre les adversaires. Et après, tu mets un match. Et là, donc, on m'explique, moi, depuis 2 mois, que le PSG va arriver en Ligue des Champions et va faire un pressing contre le Barça avec la qualité de
parce que c'est Luis Enrique qui a réussi à embrouiller beaucoup de monde.
Je ne comprends pas comment, à plus, les qualités et les défauts de son équipe et de ses joueurs, on les connaît. Et il a quand même assez de recul pour analyser. Donc, il n'y a pas moyen. Un mois avant, je dis pas de le faire 3 mois avant. Un mois avant, quand tu connais ton adversaire et que tu bosses à l'entraînement et en match de championnat, puisqu'en plus ils ont la chance de pas avoir la pression sur les matchs de championnat, donc de pouvoir le bosser. C'est-à-dire, Et donc, il y a toujours des changements, mais ce n'est pas un ou deux, c'est quatre ou cinq
mais
chaque
donc,
fois.
Si j'entends ce que vous dites, pour vous, le responsable de la défaite d'hier, c'est Luis Enrique.
Mais non, mais c'est tout le monde.
C'est ce que vous venez
de
dire, Gaël Eric.
Il faut arrêter de vouloir chercher toujours.
C'est important de brouiller les pistes, de changer les joueurs et tout. Il n'a pas mis son équipe dans les meilleures conditions pour aller gagner ce match compétitif.
Après, tu as le droit de faire mieux que ce qu'ils ont fait hier soir aussi.
C'est ce que vous dites.
Non, mais quand tu fais ce genre de résultat à ce niveau-là, c'est la faute de tout le monde. Mais moi, je trouve que ça se sentait ce coup-là. Ça se sentait sur ces dernières semaines. Et je te dis, la semaine prochaine, peut-être que ils vont avoir, ils ont deux ou trois mecs qui peuvent faire un match.
Eric, allons sur ton terrain. Excuse-moi, Eric, allons sur ton terrain. Mais Asensio, il le met uniquement pour le pressing. Parce que tu penses que,
pourquoi il le met, puisqu'il a pas mis ces derniers temps à ce poste-là.
Ah, d'accord.
C'était un coup Ramos, un coup même Dembélé qui a joué là sur le dernier match de Coupe d'Europe. Donc moi, je comprends pas, moi.
Moi, c'est ça que j'aimerais comprendre, puisque Luis Enrique nous explique. Qu'est-ce que t'as voulu faire? Qu'est-ce que t'as voulu mettre en place?
Non, mais même,
il est là. Du gars, Eric, si vous voulez, on va écouter sa justification après le match, parce que voilà sa réaction après les questions sur le positionnement et le 11 aligné justement pour affronter le Barça. Écoutez.
Parce que la seule personne dans cette salle qui voit toutes les séances d'entraînement, qui connaît, répète et revoit tous les matchs, c'est moi. Parce que c'est pour cela que je suis l'entraîneur. Parce que c'est pour cela que je travaille depuis tant d'années et que j'ai pensé que c'était les meilleurs joueurs, les mieux préparés et ceux qui étaient dans le meilleur moment. Il est évident que le résultat discrédite mes décisions, mais je l'accepte volontiers. Tout ce qu'une défaite implique, je l'accepte. Je suis un sportif naturel, un professionnel au maximum, je félicite l'adversaire. Ils ont fait un grand match et l'ont gagné, je me prépare au match retour.
On appuie sur ce qu'il voit à l'entraînement.
Oui, mais ça c'est difficile de le contrer là-dessus parce que à l'arrivée on voit pas les séances d'entraînement.
Non, mais c'est pas difficile de le contrer.
Non, mais Eric, c'est ce que je veux dire.
Jérôme, dis-moi, cette équipe donc, s'il a dans la tête depuis un moment et si il a fait travailler ça,
c'est faux. C'est faux.
Ah bon.
C'est pour ça que je te dis que lui, ce qu'il nous dit. Non mais il est obligé de nous mentir. Du moins, nous on voit les matchs, on voit les dernières semaines. Quand il dit c'est l'équipe la mieux et les joueurs les plus en forme en ce moment. Asensio, faux. Ouais. Kanginli, on vient de le dire, on n'a jamais vu un bon match de Kanginli.
Beraldo qui n'a pas joué depuis deux matchs.
Et Marquinhos qui vient à peine de revenir de blessure dans le couloir.
Tu mets arrière droit alors qu'il a jamais joué comme ça. Donc excuse-moi, un milieu de terrain où tu sors Zaïre Emery qui était ta pépite depuis le début de l'année où tu l'as mis en avant et tu le sors hier ou un moment où peut-être qu'il faut être un peu combattant et comme par hasard quand il est rentré il a gagné des duels, le gamin a mis du rythme, beaucoup plus que Ruiz en l'espace d'une demi-heure il a gagné
excuse-moi Jérôme, parce que tu le connais, tu parles bien le Enrique quand il dit on a dominé on a dominé la première mi-temps, il se fout de notre gueule ou il est sérieux?
Oui, il se fout de notre gueule.
Vous savez on s'est
souvent écharpé là-dessus. Moi j'essaye d'aller dans son sens parce que je me dis que tu fais pas 27 match comme ça sans défaite par hasard. Alors bien sûr qu'il y a dans la période des matchs quand on les analyse, il y a des matchs où on est un petit peu déçu même si le PSG avait gagné ou match nul et on se dit tiens le PSG doit montrer plus de choses, être plus compétitif, être plus cohérent dans certaines choses. Mais à l'arrivée, les résultats parlent pour lui donc c'est difficile d'aller.
En plus il a été rassurant parce qu'il a dit on est invaincu à l'extérieur en championnat donc normalement à Barcelone on va faire une belle partie, il nous a rassuré après le match.
Je vais pas trahir la personne qui m'a appelé, mais le club, le Paris Saint-Germain m'a appelé aujourd'hui parce qu'ils savent qu'on va revenir sur le match là en disant attention, il y a encore
on voulait le mettre en avant en effet, mais ça changera rien, la semaine prochaine on parlera de
l'excellent match du Paris Saint-Germain. C'est notre travail,
mais moi ce que je leur ai dit c'est que je veux bien entendre ça, il y a pas de souci et de toute façon on est aussi passé par là et c'est pour ça que moi je suis un peu le garant de ça, du moins j'essaye d'atténuer les critiques et les énervements comme Daniel Riolo hier soir en disant attention, la semaine prochaine il suffit de marquer un but et là les cartes sont redistribuées parce que il y a plus la règle de but à l'extérieur qui compte double. Donc une fois que tu as dit ça, on est passé par là, tu peux mener 1-0 à Barcelone, c'est pas non plus l'exploit du siècle, d'accord. Maintenant une fois que tu as dit ça, quand t'entends Luis Enrique aujourd'hui nous expliquer que, en effet, comme tu dis, du gars à l'extérieur, on est invaincu au championnat, mais moi je le renvoie à l'appareil. J'aurais été en face de lui quand il me dit ça, je lui aurais dit mais combien de matchs t'as gagné à l'extérieur en Ligue des Champions quand ça a été dur? Parce que le niveau s'élève en Ligue des Champions.
Aucun.
D'accord. T'as pris une branlée à Newcastle, ouais. T'as pris une branlée à Milan, et t'es passé, tu t'es qualifié sans gagner à Dortmund, alors que tu méritais d'en prendre comme au boule, tu vois. Donc excuse-moi.
T'as juste gagné à San Sébastien.
À San Sébastien, c'était la double confrontation et à la Real Sociedad, qui est une équipe moyenne.
Après, on a
d'accord.
Jimmy au 32.
Il fallait que la Real Sociedad se livre un peu et ils l'ont pris dans le nez parce que Kylian Mbappé était dans un bon soir. Moi, je te dis juste qu'après ce match-là hier soir, je suis loin d'être positif et optimiste pour le PSG. Ouais. Après, j'attends qu'à être surpris. Hein.
Il faudra contredire cette stat, je vous le rappelle. Jamais un club français qui a perdu à domicile en match aller de C1 n'est parvenu à se qualifier pour le tour suivant. Jimmy, supporter parisien, nous rejoint. Il a composé le 32.
Salut Jimmy.
Salut tout le monde.
Bienvenue.
Comment
Jimmy. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Écoute, on est en pleine forme. On aurait préféré être un peu plus positif, mais sûr, on n'a pas vu un grand match.
Ouais, bon alors moi je vous dis, ça fait depuis 20 ans que je suis le PSG. La composition d'hier, je n'ai rien compris. J'ai pas de diplôme, je suis pas entraîneur. Mais le football,
tu vois pas les entraînements toi non plus. T'es nul.
Le football sans numéro 9 et sans 6, je ne comprends pas. Je ne sais pas d'où il sort ça, où est-ce qu'il a appris ça, mais le football sans attaquant, ça n'existe pas pour moi dans ma tête. C'est pas possible en Ligue des Champions de jouer sans un vrai numéro 10
ça a marché ailleurs. Ça a marché ailleurs, mais il y a même une autre, il y a même un autre truc. Tu regarderas la défense centrale qui fait. Comment tu fais?
Est-ce que vous avez vu Marquinhos en première mi-temps? Marquinhos en première mi-temps, on aurait dit qu'il jouait à la place de Dembélé. On avait l'impression qu'il jouait à la place de Dembélé. Et il n'était pas du tout en défense. Je ne comprends pas comment il peut.
Mais on n'est pas assez intelligent pour comprendre. Il y a que Luis Enrique qui comprend. On est tous des abrutis. Non mais il y a que lui qui comprend le foot.
Tu t'en fais. Moi, je sais que tout est possible. Tout est possible. Et on voit souvent des défenses centrales avec deux défenseurs centraux qui sont droitiers. Mais expliquez-moi dans le football, quand est-ce que vous avez vu une défense centrale avec deux gauchers comme ça? Et c'est Didier Deschamps, ton ami Dugas, qui dit, moi, jamais je mettrai deux gauchers en défense centrale. Parce que le problème des gauchers, c'est qu'ils sont généralement que gauchers. Et ils ont l'hémisphère. Ils sont pas constitués comme les autres. C'est d'ailleurs pour ça, parce que hier je vous ai entendu, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'arrière-gauche qui était droitier, qui ont fait des grosses carrières, Manuel Amoros, je peux t'en trouver 1000 des trucs. Par contre, un arrière droit qui est gaucher, d'un arrière droit gaucher, ça ne s'est jamais vu. Non. Parce que on n'est pas constitué comme vous, nous, les gauchers. Donc, quand tu mets cette défense centrale là, tu sais qu'elle va avoir un problème. C'est obligé qu'elle va avoir un problème.
Mais oui. Ça, tu donnes une leçon à Luis Enrique, là.
Non, je donne pas de leçon. Si, et ensuite, Jérôme, on est d'accord que la meilleure défense centrale, fait pour moi, mais je vais demander votre avis. Si tout le monde va bien et tout, on part du principe que là, quand tu joues, tout le monde va bien. Ta meilleure défense centrale, c'est pas Marquinhos, Lucas Hernandez? D'accord. Donc pourquoi tu mets pas contre le Barça et Lewandowski, d'abord ta meilleure défense et après, tu bricoles à côté plutôt?
Évidemment. Et alors, qu'est-ce que t'as dû penser quand Lucas Hernandez?
Mais tu dois pas bricoler, tu bricoles nulle part, il y a à droite, il y a à gauche, tu bricoles pas.
Non, mais tu es obligé de bricoler parce qu'il n'y avait pas l'arrière droit. Tu mets le petit Warren, il me semble.
Merci Jimmy, supporter parisien.
Nous, on n'est pas assez intelligent.
Au 32-16. Ouais, peut-être que vous êtes un peu limité, c'est ça votre différence avec Luis Enrique.
Non, mais moi je le sais. Mais c'est pour ça que j'entends Luis Enrique parler football, je savais que j'étais un abruti, mais là vraiment, depuis que Luis Enrique parle football, sincèrement, j'ai honte.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.